Hosanna avance, pierre après pierre. La croche est posée, les idées prennent corps. Sa première vraie dissertation prend vie. Mais Laura ne se contente pas de la méthode. Elle sait que derrière chaque progrès, il y a un cœur qui bat, un élève qui doute ou s'élance. La bienveillance reste son fil conducteur.
Comment tu te sens ?
Ben, en fait, je me sens moins nulle.
Je t'ai déjà dit, Hosanna, t'es pas nulle. T'as juste besoin de méthode, c'est tout. Maintenant, tu te souviens ce que tu voulais faire pour continuer le développement ?
Oui, je voulais parler de votre parcours.
Ok, super. Eh ben, tu tiens à ce que tu t'étais fixé dans ton introduction et on continue.
Laura est comblée par le retour d'Anaïs et de sa mère. Mais avant d'en arriver là, Laura a eu un parcours atypique.
Alors, je suis née dans un commerce, dans une pizzeria. Donc, mes parents tenaient ce commerce et j'ai grandi là-dedans, dans l'idée que le client peut te déranger tout le temps. Et je crois que c'est quelque chose que j'ai toujours eu en moi. Je me suis retrouvée à 18 ans à devoir gérer ce commerce plus ou moins toute seule. Et en fait, c'était ma première expérience d'entrepreneur où j'ai découvert les avantages et les inconvénients, ou en tout cas j'en ai pris conscience parce que je ne savais pas ce que c'était qu'être salarié ou entrepreneur. Et je me suis rendu compte que quand on avait un commerce à gérer, quel que soit ce qui nous arrive à titre personnel, on est obligé d'ouvrir le soir, ou en tout cas la boutique, c'était une pizzeria, donc on ouvrait à 18h. Et en fait, il faut être là bien avant 18h. C'est là que j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris que plus on avait d'expérience, plus on avait d'efficacité, tout simplement. J'ai appris donc ce que c'était que d'être entrepreneur, même si c'était pas totalement conscient. Et j'ai appris à gérer un commerce, à faire les courses, à gérer les stocs, à faire tout ce que j'ai pas eu envie de faire par la suite. Maintenant, je gère des crayons et des feuilles et c'est très bien. Donc ça a commencé comme ça. Je sais pas ce qu'on en retiendra, mais en tout cas, ça fait partie de mon parcours. Et depuis que je suis jeune, moi, ce que je voulais faire, c'était être professeur des écoles. Donc, donner des cours, être maîtresse d'école, c'était mon rêve. Donc, quand j'ai eu mon bac, qu'il a fallu choisir des études à faire, étant un peu perdue, je suis partie en psychologie parce que ma mère me voyait bien psychologue. Et que de toute façon, pour être professeur des écoles, il fallait un bac plus 3, quel que soit le domaine. Et pour moi, ça n'avait pas de sens de faire une licence en maths ou en français parce que concrètement, je ne voyais pas ce qu'on pouvait faire d'autre avec. Donc, je me suis dit, on se lance là-dedans. Et en fait, le parcours était assez lisse. J'ai eu toutes mes années, 10 ou 11 à chaque fois. J'ai tout fait comme il fallait. En licence, j'ai fait un stage de professorat des écoles, de professionnalisation. Je suis partie en master. Ça a été l'année la plus rude que j'ai jamais vécue toute ma vie, mais aussi la plus belle et la meilleure. C'est là où j'ai appris le plus, où j'ai appris à travailler, où j'ai appris ce que c'était que de travailler. Et à la fin de cette année de master, j'ai passé le concours pour devenir professeur des écoles. Concours que j'ai lamentablement loupé. Donc c'était une grosse incompréhension pour moi. Et comme c'était le rêve de toute ma vie, je me suis dit, je poursuis, je continue. Et il a fallu que je m'occupe une année, puisque j'avais validé mon master, mais il fallait que j'attende un an pour repasser le concours. C'est là où je me suis inscrite pour donner des cours chez Anacours. Une année d'expérience en cours particulier, j'ai adoré ça. Je me suis éclatée comme pas permis. Je passe le concours. Là, je réussis l'écrit brillamment. Je passe l'oral. La seule épreuve que j'ai ratée s'appelle être bon fonctionnaire de l'État. Sur le coup, ça a été un drame pour moi. J'ai eu une très mauvaise note. Je l'ai très mal pris. Et surtout, c'est difficile de louper un concours. Il fallait que je le repasse une troisième fois, donc je me suis posé énormément de questions à ce moment-là. Et avec le recul, je me suis dit que si j'avais loupé cette épreuve, être bon fonctionnaire de l'État, c'est peut-être bien parce que j'étais pas faite pour être fonctionnaire. Donc je me suis cherchée beaucoup, j'ai continué à donner des cours particuliers, j'étais dans mon domaine, et c'est là qu'on m'a proposé une place de conseillère chez Anacours. Ayant besoin de gagner de l'argent, j'ai dit oui. j'ai tenté et je me suis dit surtout que ça me permettrait peut-être de repasser le concours un an après parce que en fait, j'avais pas d'autre objectif de vie, moi, que d'être maîtresse d'école. Et j'ai passé un an dans ma première agence en région parisienne. Et c'est là où j'ai appris que si on avait un travail ou un domaine qui nous plaisait, bah, fallait foncer. Parce que si c'était faire un travail inintéressant, ennuyant toute sa vie, eh ben, on était malheureux. Donc, c'était pas mes projets de vie, d'être malheureuse. Donc, je m'y amusais beaucoup dans ce rôle-là, mais très vite, j'ai voulu évoluer. Manque de bol, je n'avais que 20 ans. Et quand on veut évoluer à 20 ans, bah, on a beau nous dire que c'est très bien, on n'a pas assez d'expérience, on n'a pas tout ça. Moi, je ne suis pas patiente. Et moi, j'ai dit, c'est pas parce que je suis jeune, je ne vais pas y arriver. Donc, si vous ne voulez pas m'aider, moi, je vais le faire par moi-même, quitte à me tromper. Ce que j'ai fait, et j'ai ouvert ma franchise en 2018 à l'aube de mes 25 ans. On avait moyennement confiance en moi, mais on m'a suivi quand même. Donc, c'est que même si on marchait sur des œufs, tout le monde y a cru et c'était possible. Et preuve en est, bientôt 7 ans après, bah, j'y suis encore. Donc, j'ai ouvert mon agence à Issy-les-Moulineaux, en région parisienne. J'y suis restée une première année qui s'est très bien déroulée. Deuxième année, toute pleine de bonne énergie. Confinement.
Février 2021. Le monde entier est confiné à cause du Covid. Comme tout le monde, Laura se retrouve bloquée chez elle. C'est l'occasion pour elle de faire le point sur sa vie, donner du sens à son activité professionnelle.
Ça met un stop aux cours particuliers à domicile, ça met un stop à l'activité. Là, on se dit qu'on n'a personne, qu'on est vraiment seul, qu'on n'a pas de salaire à la fin du mois. Donc, ça tombait très mal pour moi. Heureusement, pour le coup, que j'étais en franchise parce qu'il y a quand même des choses qui tournaient à peu près et qui m'ont permis de survivre et puis de l'entraide qui s'est mise en place. Et c'est à cette période, je dirais, que beaucoup de choses ont basculé sur mes choix de vie. Et où on a tous pris conscience qu'il fallait qu'on prenne plaisir dans la vie, dans son travail, dans sa vie personnelle. Et c'est dans cette période, moi, que j'ai décidé de faire un enfant. J'en ai toujours voulu. J'étais avec la bonne personne. Je savais qu'il serait le père de mes enfants. Donc, on y va, on se lance. Et ensuite, l'enfant est arrivé. Et finalement, je me suis rendu compte qu'avoir une maison serait vraiment bien. Donc, j'ai acheté ma maison. Et c'est là que je suis arrivée à Chartres. On a foncé. Je dois dire sans trop réfléchir parce qu'on ne connaissait pas Chartres, on ne connaissait personne. C'est là que j'ai pris plaisir à rentrer chez moi. Finalement, je faisais beaucoup de transport. Et un jour, je me suis dit, bah, c'est quand même bête de faire ces allers-retours alors que ce que je fais à Paris, je pourrais très bien le faire ici. Je suis tombée enceinte du deuxième. C'est arrivé sans prévenir, mais c'est la plus belle chose qui me soit arrivée. Personne n'était prêt, mais il était là. Et en fait, il a tout chamboulé, ce petit gars. Et pour lui, après avoir acheté une maison pour le premier, j'ai créé une agence Anacour à Chartres. Je ne fais plus les allers-retours. J'ai quitté cette vie parisienne dans laquelle, finalement, j'ai jamais été bien.
Un mari, une maison, deux enfants, une agence près de la maison. Tout est en place pour commencer l'aventure. Des dizaines d'élèves bénéficient chaque semaine de leçons particulières en français, en géographie, en mathématiques.
Le périmètre d'un polygone, bon ça devrait y aller, mais j'ai plus de mal avec ça. Pour retenir la longueur, les unités, 100 mm, centimètres, décamètres, kilomètres, tout ça.
Okay.
Et donc, par exemple, là, pour le carré, j'ai pas très bien compris, mais 4 fois C, donc les C, c'est la barre, bah, on devrait calculer, ça fait au moins combien, comme par exemple, le C, c'est égal à...
Oui, bah, ça, donc,
alors, comment je fais pour choisir les enseignants les plus adaptés à chaque élève? Je commence par écouter l'élève et ses besoins. En fait, j'écoute tout le monde. Je recrute les enseignants pour leur profil et pas forcément parce que j'ai un élève en tête. Donc, quand je recrute l'enseignant, j'écoute ce qu'il a à dire, pourquoi il veut donner des cours, qu'est-ce qui l'intéresse, et je leur dis toujours, maintenant, je vais essayer de trouver l'élève qui vous donnera plaisir à donner des cours particuliers. Et dans mon discours, je dis la même chose à l'élève. Une fois que je connais bien mon enseignant et je sais quel élève il veut, alors ça joue sur la localisation, ça joue sur le niveau de l'élève, sur la matière, mais aussi sur le profil d'élève. Quand on cherche l'excellence, c'est pas comme quand on cherche à avoir 10 de moyenne et être bien dans ses baskets. Il y a des enseignants qui sont dans l'excellence et d'autres qui ont envie de donner l'amour du travail à leurs élèves. Je vais pas associer les mêmes duos ou tandems gagnants, comme on aime bien dire chez Anacour. Et quand j'écoute la famille, je fais exactement pareil. Et c'est ensuite que les associations d'idées, elles se font.
Il n'existe pas vraiment de bons ou de mauvais professeurs. Tout est question de rencontre. Laura le sait. Il faut trouver celui qui parle à ton rythme, qui sait te tirer vers le haut sans t'étouffer. Son talent, c'est ça. Trouver la bonne alchimie entre celui qui enseigne et celui qui apprend.
Récemment, j'ai une cliente qui m'a dit « Franchement, Laura, quand je vous ai appelée, j'étais pas du tout convaincue du truc. Moi, je m'attendais à un prof et en fait, vous m'avez trouvé une jeune qui débute et j'étais pas partante. Pourtant, dans les 5 premières minutes où elle a donné son cours, j'ai su que ça se passerait bien. Et vous avez eu raison de la choisir puisque un an après, mon fils, il a eu 17 à son oral du bac alors qu'il est parti avec 6. » Et ben ça, c'est ma meilleure réussite parce que je sais qu'il y a une vraie plus-value à bien choisir ses enseignants et pas que par leur parcours et parce qu'on attend d'eux. C'est-à-dire que souvent, on attend d'eux qu'ils aient beaucoup d'expérience, qu'ils aient donné des cours en classe ou qu'ils aient un parcours académique. Et finalement, c'est pas tout le temps ceux-là qui sont les mieux placés. C'est juste qu'il faut savoir répondre à la demande qu'on a initialement. Un enfant qui a 6 de moyenne générale, il sera pour moi, forcément pas à l'aise avec un professeur académique puisque ça ne lui réussit pas s'il a une mauvaise moyenne. C'est donc qu'il faut une autre méthode et par une autre méthode, il va pouvoir s'adapter au système et ça va lui permettre d'avoir des bonnes notes.
Ta longueur, quand on a une autre, ce que tu fais, c'est que tu les additionnes parce que tu sais, est-ce que tu te rappelles que ce qui est entre parenthèses, ça doit être prix. Prix. Oui, c'est pas la prière. Hein. C'est.
Prio. Prioritaire.
Prioritaire. Donc en fait, tu fais toujours, comme pour n'importe quel calcul, tu fais toujours ce qu'il y a dans la parenthèse et ensuite, en fait, tu fais ta multiplication.
Ouais.
Ok ? Donc là, si je te dis, calcule-moi le périmètre en prenant en compte que la largeur fait 2 cm et la longueur fait 4 cm. Donne-moi les étapes de calcul là.
Bah, on fait 2 cm plus 4 cm, ça va faire 6 et 6 fois 2 est égal à 12. Donc, donc dans le total, ça va faire 12.
Et bah voilà, 12 avec l'unité. Donc du 12.
12 unités ?
Non, l'unité, c'est en. Mètre, kilomètre.
Mètre, kilomètre, centimètre.
En centimètre, voilà. Donc le périmètre, il fera 12 cm.
Je dis toujours qu'il n'y a pas une seule bonne solution pour aider un élève. Il y en a plusieurs. Déjà, chaque élève est différent. Donc potentiellement, il y a une solution par élève pour résoudre un problème. Et chaque élève, comme chaque humain d'ailleurs, n'est pas constant. Donc, il y a un moment, on va être en mesure de prendre l'information et à un autre moment, non. Donc, transmettre une information, c'est savoir la dire différemment. Ce que je dis souvent, c'est qu'un bon prof, c'est pas quelqu'un qui répète 1000 fois la même chose, mais c'est quelqu'un qui répète 1000 fois la même chose d'une manière différente. Si on a compris ça, on a tout compris. Et il y a des fois, parfois on va l'entendre, parfois non. Il y a la façon d'expliquer, mais il y a aussi le comment on explique et la personne. Je suis dans le cours particulier à domicile. Le plus important, c'est de créer le bon duo. Parce que quelqu'un qui va être à l'aise avec moi, il ne va pas être à l'aise avec un autre enseignant. Et inversement, un enseignant qui va mettre mal à l'aise un élève, le voisin, il le mettra parfaitement à l'aise parce qu'il saura lui parler, l'écouter. Les parents demandent souvent un prof pédagogue. Pour moi, typiquement, ça ne veut pas dire grand-chose. À partir du moment où on enseigne, on a une forme de pédagogie. Mais la pédagogie, ça peut être aussi bien un cours magistral récité par le prof qu'un enseignant qui va répéter 1000 fois la même chose de 1000 manières différentes en moins de 3 minutes et qui parle très vite, ou un enseignant qui va être en retrait et qui va laisser son élève parler. C'est autant de pédagogies différentes. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre, mais il y en a une qui va mieux convenir à un élève que l'autre. Et ça, c'est important. Pour moi, et je le dis souvent aux familles.
Si
si je devais résumer ma philosophie pédagogique, je pense que je dirais qu'il faut prendre plaisir à travailler. On prend pour une folle quand je dis ça. Mais si on ne s'amuse pas en travaillant, on n'apprend pas et surtout le temps passe pas vite. Et c'est aussi bien dans un domaine scolaire que dans un domaine professionnel. C'est quelque chose qu'on doit faire et qu'on va faire tous les jours. Et si on ne prend pas plaisir, on ne va pas retenir, on ne va pas avancer. Et surtout, on n'aura pas envie d'avancer. Donc, on ne va pas susciter sa curiosité. On ne va pas poser les bonnes questions. On ne va pas s'intéresser aux bonnes choses. Et puis, on va petit à petit se renfermer sur soi-même. Que dans tout ce qu'on fait, on peut prendre du plaisir. Il faut juste savoir comment s'y prendre.